Chapitre 24. Le chapitre 24 des Actes vus sous la perspective de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Actes, chapitre 24, n'est pas un document qui enregistre simplement le processus d'un procès retardé. Ce chapitre montre clairement ce qui reste inchangé jusqu'à la fin, lorsque l'Évangile de l'eau et de l'Esprit déjà accompli est examiné par le langage de la politique, de la religion et de la morale. À travers la défense et l'attitude de Paul, il nous témoigne de quoi l'Évangile, où le problème du péché a déjà pris fin, se prouve lui-même devant le pouvoir du monde. Actes, chapitre 24, versets 1 à 9, la réalité de l'accusation, à propos du cadre d'un destructeur de l'ordre, essayant d'enfermer l'Évangile. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias, avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. « Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. » Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysias étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. 5 jours plus tard, le souverain sacrificateur Ananias descend avec les anciens et un avocat, Tertulle, et accuse Paul devant le gouverneur. Tertulle désigne Paul et critique « Nous avons trouvé cet homme qui est une peste qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. » Le cœur de cette accusation n'était pas un fait criminel réel, mais une tentative d'enfermer l'Évangile dans un cadre social. Parce que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit met fin aux œuvres humaines et au système de la loi centré sur le temple, il ne peut s'empêcher de toujours ressembler à une peste dangereuse, détruisant l'ordre existant pour ceux qui s'accrochent à leur propre justice. Actes, chapitre 24, versets 10 à 16, la défense de Paul, à propos de la voie qui accomplit les promesses de l'Ancien Testament et de la liberté de conscience. Et après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit « Sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. » Et il ne saurait se prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Paul commence calmement sa défense après avoir reçu la permission du gouverneur. Il révèle qu'il n'a jamais causé de trouble en disant « Tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. » Pourtant, il déclare « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » Ici, la voie dont parle Paul n'était pas une nouvelle religion, mais l'accomplissement de la méthode de salut prophétisée par l'Ancien Testament. Il dit aussi « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes, et cette conscience n'était pas une condition pour obtenir le salut, mais le résultat de la liberté dont jouit celui dont la condamnation a déjà pris fin. » Actes, chapitre 24, versets 14 à 16, l'espérance de la résurrection, à propos de la question centrale du procès prouvant l'achèvement de l'effacement des péchés. « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Paul ramène une fois de plus la question du procès à l'espérance de la résurrection, en disant « Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. La résurrection n'est pas une vague idée de l'au-delà, mais la preuve finale montrant que tout cet effacement des péchés a été complètement achevé après que Jésus a pris en charge les péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean au fleuve Jourdain et a reçu le jugement sur la croix. Parce que s'il n'y a pas de résurrection, l'évangile de l'eau et de l'esprit n'a pas non plus de substance, Paul place ce fait historique de la résurrection au cœur du procès. Actes chapitre 24, versets 17 à 21, la vérité sur l'incident du temple, un lieu de témoignage, non une scène de crime. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient eu quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Paul déclare qu'il n'a pas causé de tumulte dans le temple, mais qu'il était simplement purifié dans le temple, ayant accompli les rites de purification. Il témoigne, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. La seule chose que Paul a faite a été de témoigner du fait du salut accompli. Ce qui est devenu un problème pour les Juifs n'était pas les actions de Paul, mais le fait que le message de l'évangile qu'il proclamait démantelait lui-même leur système religieux. Actes, chapitre 24, versets 22 à 23. L'ajournement du gouverneur, sur les limites du pouvoir qui connaît la vérité, mais ne parvient pas à prendre une décision. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire ». Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Félix ajourne le procès en disant « Qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine ?» et reporte le verdict, déclarant « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Il ordonne de garder Paul, mais de lui donner de la liberté et de n'empêcher aucun de ses amis de prendre soin de lui. Cela montre la nature typique du pouvoir qui comprend objectivement la vérité, mais retarde la prise de décision tout en calculant ses propres intérêts politiques et son emploi du temps. L'attitude de Félix prouve paradoxalement que l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas un objet de simple compréhension, mais un objet de décision mettant la vie en jeu. Actes, chapitre 24, versets 24 à 26, le sermon devant Félix. Sur le saint malaise donné par l'évangile de la fin de la condamnation, et quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi, l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Quelques jours après, Félix vient avec sa femme, la femme juive Drusille, appelle Paul et l'entend sur la voie de la foi en Christ Jésus. Alors que Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Ce n'était pas une simple leçon de morale, mais un sermon qui révélait la sévérité du jugement réservé à ceux qui rejettent l'effacement des péchés déjà accomplis. Félix a ressenti de la peur, mais en même temps, à cause de son avidité, espérant recevoir de l'argent de Paul, il n'a pas pu s'avancer vers une décision de foi. Actes, chapitre 24, verset 27, un ajournement de 2 ans, sur l'évangile sans compromis et la providence de Dieu qui avance. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Après que 2 ans se sont écoulés, Porcius Festus succède à Félix dans ses fonctions. Félix, voulant s'attirer les faveurs des Juifs, laisse Paul en détention. Paul passe injustement une période de 2 ans en prison, mais pendant cette période, l'évangile de l'eau et de l'esprit n'a été ni modifié ni compromis, pas même d'une seule ligne. L'évangile ne négocie pas avec le pouvoir du monde en échange de sa libération ou de sa sécurité. Les actes montrent silencieusement que même l'emprisonnement de Paul s'inscrit dans la plus grande providence de Dieu se dirigeant vers Rome. En conclusion, Acte 24 témoigne de la façon dont l'évangile de l'eau et de l'esprit se tient debout tout en gardant sa pureté, même au milieu des attaques de cadres et des calculs politiques du monde. L'évangile n'est pas une faction religieuse, mais la seule voie par laquelle toutes les promesses de l'Ancien Testament ont été accomplies par le baptême, la croix et la résurrection de Jésus. La résurrection est la preuve finale de l'achèvement de l'expiation. Et celui qui croit ce fait jouit de la liberté de conscience qui n'est pas servile, même devant le pouvoir. Acte 24 proclame que l'Évangile est une puissance vivante qui exige une décision réelle et une foi au-delà de la compréhension humaine. Un sermon de Paul Sejong. La parole d'Acte chapitre 24, versets 1 à 27, est une parole qui montre de manière frappante comment son essence est révélée lorsque l'Évangile est placé sur la table d'examen du pouvoir mondain. En lisant ce texte du point de vue de l'Évangile de l'eau et de l'esprit prêché par le pasteur Paul Sejong, le procès de Paul devient une scène magnifique révélant comment le salut que Dieu a déjà accompli illumine simultanément la conscience humaine et le pouvoir, plutôt qu'une défense destinée simplement à prouver l'innocence d'un individu. 5 jours plus tard, le souverain sacrificateur Ananias est descendu avec les anciens et un avocat, Tertulle, et a accusé Paul devant le gouverneur Félix, le poussant dans ses retranchements comme une peste, un créateur de division parmi tous les Juifs dispersés à travers le monde et un chef de la secte des Nazaréens. Cependant, la réalité de cette accusation n'était pas une question de sécurité publique, mais une collision entre l'Évangile et l'ordre religieux existant, parce que l'Évangile de l'eau et de l'esprit détruit le système essayant de gérer le péché par la loi et de se rassurer par des institutions, et proclame que le péché a déjà pris fin par le ministère de Christ. Il apparaît comme une puissance menaçant le contrôle religieux et les droits acquis. Paul, ayant reçu la permission du gouverneur, a révélé avec assurance sa position devant Félix. Il a déclaré « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Ici, cette voie dont parle Paul ne signifie pas une nouvelle idéologie, mais l'accomplissement du salut promis par la Bible et l'espérance de la résurrection qu'il avait n'était pas un vague réconfort de l'au-delà, mais la conviction dans le jugement de Dieu que le prix du péché a été complètement payé par le ministère de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a pris en charge les péchés du monde de Jean au fleuve Jourdain, a reçu le jugement de ses péchés sur la croix et que le Saint-Esprit en a témoigné, Paul a pu dire « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Ce n'est pas une affirmation de sa propre justice, mais une confession de véritable liberté au sein de l'Évangile où la condamnation a pris fin. Paul a clairement révélé qu'il n'avait jamais causé de troubles ni blasphémé dans le temple, mais qu'il avait plutôt adoré en accomplissant le rite de purification. L'Évangile ne détruit pas l'ordre du monde, mais change fondamentalement la norme de purification. C'est parce que les sacrifices répétitifs ou les actes humains n'opèrent plus la purification, mais le baptême et l'effusion de sang de Jésus deviennent la réalité de la purification. Tout en respectant l'ordre du lieu appelé le temple, Paul a prouvé par sa vie que le fondement réel du salut réside dans le ministère achevé de Christ accompli en dehors du temple. Félix connaissait plus exactement cette voie, mais a reporté la décision gardant Paul en détention, tout en ordonnant de lui laisser de la liberté et de n'empêcher aucun de ses amis de pourvoir à ses besoins. Quelques jours après, lorsque Félix est venu avec sa femme Drusille, qui était juive, il a fait appeler Paul et l'a entendu concernant la foi en Christ Jésus, et Paul a discouru sur la justice, la tempérance et le jugement à venir. La raison pour laquelle Félix, effrayé, a répondu « Pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai » était parce que l'Évangile a percé de manière acérée ses péchés cachés et sa conscience. Cependant, en même temps, espérant que de l'argent lui serait donné par Paul, il l'a fait venir plus souvent et a conversé avec lui, reportant la décision. L'Évangile de l'eau et de l'esprit ne permet pas de compromis et devant la déclaration que le péché a pris fin, l'acte de reporter la décision pour le profit, comme Félix, n'est pas de la neutralité, mais simplement une autre expression de rejet. Après que 2 ans se sont écoulés, lorsque Porcius Festus est venu comme son successeur, Félix, voulant s'attirer les faveurs des Juifs, a laissé Paul lié en détention. La conclusion d'Actes chapitre 24 apparaît comme Paul étant toujours laissé lié. Mais cela montre paradoxalement la victoire de l'Évangile. C'est le fait que même si une personne peut être liée, l'Évangile de Dieu n'est jamais lié. Même pendant que Paul était emprisonné, l'Évangile de l'eau et de l'esprit a ébranlé le cœur du gouverneur et a été proclamé sans cesse au milieu du tribunal du pouvoir. Plutôt que de placer son but dans le changement de l'environnement, l'Évangile révèle la conscience humaine et exige une décision véridique. Cette vérité, selon laquelle Jésus-Christ a pris en charge tous nos péchés au fleuve Jourdain, a reçu le jugement de ses péchés sur la croix, et que le Saint-Esprit en témoigne dans le cœur de ceux qui croient, nous place devant la table d'examen encore aujourd'hui. En conclusion, Actes 2 chapitre 24 nous demande si nous repoussons à plus tard comme Félix, même après avoir connu l'Évangile, ou si nous prenons avec assurance une décision devant le salut accompli. Devant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la conscience humaine doit choisir l'une des deux voies, obtenir la liberté ou être ébranlée par la peur. L'Évangile n'est pas l'objet recevant l'examen du monde, mais plutôt la lumière éternelle illuminant la conscience de ceux qui examinent. Lorsque cet Évangile est proclamé, plutôt que de calculer notre propre profit ou notre environnement, nous devons obtenir la véritable paix dans la foi qui croit au salut parfait que Dieu a déjà accompli. Questions et réponses sur le chapitre 24 des Actes. La première. Êtes-vous curieux de la majesté de l'Évangile que Paul a montré en discourant sur la justice, la tempérance et le jugement devant le gouverneur Félix? Découvrons davantage, à travers le déroulement du chapitre 24, comment cet Évangile a fait trembler ceux qui sont au pouvoir. La justice, la tempérance et le jugement, proclamés par Paul devant le gouverneur Félix dans Actes chapitre 24, est une scène montrant simultanément la sévérité du jugement et l'inévitabilité de la rédemption que possède l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Tout en gardant Paul en détention pour s'attirer les faveurs des Juifs, Félix s'est d'une part interrogé sur la foi en Christ Jésus et a fait appeler Paul. À ce moment-là, Paul ne flatte pas celui qui est au pouvoir et ne mendie pas sa propre libération, mais proclame d'abord la justice, qui est la partie la plus acérée de l'Évangile. Ici, la justice dont a parlé Paul ne signifie pas des actes moraux humains, mais signifie la justice de Dieu que Jésus a accomplie sur la croix après avoir porté les péchés du monde par le baptême, et cela présuppose que tous les humains sans cette justice sont des objets de jugement sans exception. La tempérance sur laquelle Paul a discouru signifie la vie consistant à contrôler ses convoitises au sein de l'Évangile et le jugement à venir qui suit est la déclaration finale sur le résultat de ne pas croire à l'Évangile. Du point de vue de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, le jugement est très clair. C'est parce que tous les péchés de l'humanité ont déjà été transmis par le baptême de Jésus et ont reçu leur punition sur la croix. Mais ceux qui ne croient pas à ce fait légal et restent encore sous leurs propres péchés doivent en porter eux-mêmes la responsabilité. Le fait que Félix ait éludé la réponse en tremblant après avoir entendu les paroles de Paul était un frisson spirituel qui s'est produit lorsque la lumière de l'Évangile a directement illuminé sa propre injustice et le juste jugement de Dieu. La majesté de l'Évangile qui a fait trembler Félix vient exactement de l'autorité du juste. Bien que Paul se trouvât dans le corps d'un prisonnier, parce qu'il était une personne juste qui a transmis tous les péchés par le baptême de Jésus, il pouvait être confiant en se tenant du côté de Dieu qui est le souverain du jugement. Au contraire, bien que Félix eût le pouvoir le plus élevé, parce qu'il était un pécheur qui ne connaissait pas le secret de l'effacement des péchés, l'eau et l'esprit, il n'avait d'autre choix que de trembler devant le jugement à venir. Le fait que Félix espérait de l'argent tout en faisant fréquemment appeler Paul montre qu'il était lié par les désirs de la chair plutôt que par la vérité de l'Évangile. Et cela nous suggère à quel point la différence est grande lorsque l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'est entendu que comme une connaissance et lorsqu'il est cru avec le cœur. En fin de compte, le chapitre 24 nous informe que l'Évangile n'est pas simplement un message de réconfort, mais un puissant ultimatum légal qui fait passer une âme de la peur du jugement éternel à la paix du juste. Pour celui qui ne fait que craindre et reporter la décision comme Félix, l'Évangile devient le fondement du jugement, mais pour celui qui accepte cette justice comme Paul, il donne la véritable liberté de ne pas être servile, même devant le pouvoir mondain.